si la vie c'est je nais, je vis, je donne de l'énergie, je meurs et je me suis reproduit, les étoiles c'est de la vie.
Microlab, Radio Campus Grenoble 90.8.
Mais personne n'en a rien à foutre de considérer qu'une étoile est de la vie parce qu'on n'a pas de contact.
14h, 14h30. Avec Julie Amand, Emma Duboc et Obir Ranarison.
Et Alissa Perrineau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Microlab. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez bien mangé ce midi, car l'équipe de Microlab est sur le point de vous servir une émission qui risque de vous ouvrir l'appétit. Aujourd'hui, nous allons parler gastronomie et alimentation du futur. Pour cela, nous accueillerons Maya Fillon, diététicienne nutritionniste diplômée de l'IUT de Bordeaux-Périgueux. Un grand entretien qui s'annonce aux petits oignons. Mais avant ça, nous reviendrons comme d'habitude sur les dernières actualités scientifiques. Au menu du jour, des femmes chasseuses, un chat géant, des équations différentielles et une espèce disparue retrouvée. Pour commencer, c'est Julie qui nous présentera le journal. Salut Julie, ça va ?
Salut Alicia, eh bien ça va super.
Le grand entretien sera quant à lui animé par Obi. Salut Obi, tu vas bien ?
Bah écoute, salut tout le monde, salut à tous, salut Alicia, hâte de mettre les pieds dans le plat. Voilà, comment tu vas toi ?
Ça va nickel, merci. Et cette semaine, petite nouveauté dans Microlab, Emma nous présentera une chronique sur la gastronomie du futur. Salut Emma, ça va ?
Merci Alicia, comme on dit chez moi, dans mon pays de l'étoile, ça gâte.
J'espère que vous êtes bien installés pour ces 30 minutes de science, en direct sur le 90.8, ainsi que sur campusgrenoble.org, onglet écouter. Le quatrième épisode de Microlab, c'est parti! Cette semaine, on commence avec Julie et les actualités scientifiques.
Les hommes à la chasse et les femmes à la cueillette, c'est sûrement une histoire qui vous parle, mais il semblerait qu'une partie de cette histoire soit différente. Dessin de chat de 37 mètres de longueur, nous verrons ça au Pérou. Un peu de mathématiques, ça vous dit ? Je sais, c'est pas toujours tentant, mais je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et enfin, nous finirons avec un caméléon emblématique de Madagascar qui refait surface après 100 ans.
Et si les hommes n'étaient pas les seuls à chasser ?
Depuis la nuit des temps, scientifiques et historiens s'accordent sur le fait qu'à partir du moment où l'espèce humaine a commencé à chercher de la nourriture, c'était les hommes à la chasse et les femmes à la cueillette. Une récente étude menée à l'Université de Californie semble remettre en question cette théorie. Après de longues fouilles archéologiques au Pérou, les chercheurs ont découvert une sépulture contenant des outils de chasse. Vous vous demandez sûrement en quoi cette découverte prouve que les femmes chassaient. La réponse est assez simple. À cette époque, les objets utilisés pendant la vie étaient enterrés avec eux. Ensuite, les os et les protéines dentaires du corps retrouvés confirment qu'il s'agit bel et bien d'une femme. Est-ce un cas isolé ? Les chercheurs ont démontré que non. Ils ont retrouvé 27 autres sépultures avec des outils de chasse. 11 d'entre elles contenaient des femmes. Selon les études statistiques, il y a environ 9000 ans, 30 à 50% des chasseurs étaient en réalité des chasseuses.
On reste encore au Pérou, mais cette fois-ci pour parler d'un chat géant.
Et oui, pour cette deuxième actualité, je vous propose encore une fois de rester au Pérou. Il y a quelques semaines, un dessin de chat de plus de 37 mètres de long a été découvert. Il s'agit d'un géoglyphe. Ce sont des dessins réalisés grâce à des lignes creusées dans le sol et qui sont visibles depuis le ciel. Ils peuvent représenter des guerriers, des figures géométriques ou encore des animaux. Les géoglyphes les plus célèbres du Pérou ont été réalisés entre 300 avant Jésus-Christ et l'an 800 par la civilisation Nazca. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces dessins ne sont visibles que depuis le ciel. Les premiers géoglyphes de Nazca ont été découverts en 1927. En 2004, 143 géoglyphes ont été découverts. Certains font que quelques mètres et d'autres une centaine de mètres. Même si les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la fonction de ces dessins géants, ils sembleraient s'accorder sur le fait que les animaux étaient liés à des lieux plutôt pour les rituels et que les plus petites formes, comme les formes géométriques, étaient là pour diriger les voyageurs, comme des sortes de balises. Mais revenons à notre chat géant. Contrairement aux géoglyphes découverts, celui-ci semble tourner vers le sol et non vers le ciel comme ceux de la civilisation Nazca. Selon les chercheurs, ce géoglyphe est antérieur à cette civilisation. Il aurait été dessiné entre 500 avant Jésus-Christ et 200 par la civilisation des Paracas. On pourrait se demander comment ce chat géant de 37 mètres de long n'a pas été repéré plus tôt. En réalité, ces dessins sont sur des collines. Avec l'érosion, les lignes s'effacent peu à peu, emmenant parfois ces magnifiques dessins avec elles.
Et après l'histoire, une petite pause mathématique.
Parlons des équations différentielles partielles. Oui, je sais, ça fait un peu peur, mais laissez-moi vous expliquer ce que j'ai compris de cette étude. Ces formules mathématiques sont beaucoup plus utilisées que vous ne le pensez. Pour prévoir des courants océaniques ou des activités sismiques, par exemple. Ces calculs sont aussi utilisés pour prévoir les vents et simuler les turbulences. Tous ces calculs sont réalisés par des super calculateurs qui sont très efficaces. Mais un nouveau dispositif mis en place par une équipe de recherche semble encore plus prometteur. Cette nouvelle méthode permettrait de résoudre des familles entières de calculs, et ça 1000 fois plus rapidement qu'avec les formules mathématiques traditionnelles. Le taux d'erreur serait 30% inférieur aux méthodes classiques. Leur méthode présente également l'avantage d'être généralisable. Ce qui augmenterait donc la capacité de calcul et donc permettrait de modéliser des problèmes encore plus complexes. Ce dispositif est essentiellement utilisé pour prévoir une météo à l'échelle mondiale, par exemple. Mais les scientifiques voudraient le développer dans d'autres domaines scientifiques.
Direction Madagascar maintenant. Et si un animal normalement disparu refaisait surface ?
Chaque année, plus de 20 000 espèces vivantes disparaissent, ce qui a de quoi alerter les scientifiques. Mais il y a aussi plus rarement des retours d'espèces, ce qui cette fois-ci fait le bonheur des scientifiques. Des zoologues ont eu une sacrée surprise à Madagascar. Une espèce de caméléon qui avait disparu depuis 100 ans a refait surface. Il s'agit du caméléon Volsko, qui avait été vu pour la dernière fois en 1913. En 2018, un programme de conservation a mené une expédition. Au départ, celle-ci ne s'est pas révélée fructueuse, mais après plusieurs mois, 3 femelles et 15 mâles ont été recensés. Ce n'est que fin octobre 2020 que cette nouvelle est devenue publique. Les chercheurs connaissaient très peu cette espèce de caméléon, d'où la difficulté de cette expédition. Ils se sont donc appuyés sur une autre espèce originaire de Madagascar, qui ne vit que quelques mois, qui est une espèce très petite et qui vit pendant une période très précise de l'année. C'est donc dans les forêts au nord-ouest de Madagascar que ces nouveaux spécimens ont été observés. Pour vous faire une petite description, les femelles mesurent environ 15 cm et les mâles jusqu'à 16,5 cm. Concernant la couleur, les mâles sont vert clair, mais peuvent devenir vert foncé quand ils sont stressés ou en colère. Les femelles, quant à elles, sont vertes avec des rayures vertes foncées et des points rouges sur le côté. Par contre, quand elles sont stressées, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Les rayures deviennent noires et des stries violacées apparaissent et la peau devient blanche. La gorge peut aussi changer de couleur et devenir orange. Même si les chercheurs ont observé quelques spécimens, cette espèce reste encore classée parmi les espèces en voie d'extinction. Elle fait effectivement partie d'un territoire qui est localisé sur une petite aire géographique et sur un territoire fragmenté.
C'était le journal de Microlab. Merci Julie. On se retrouve après une courte interlude musicale pour le grand entretien de Microlab. À tout de suite.
You're my heart, you're my
C'était Your Mind is Mine de Ex-Nation. Vous écoutez toujours Radio Campus Grenoble. Nous sommes en direct dans Microlab et place maintenant au grand entretien.
Et oui, aujourd'hui, Alicia, parlons peu, parlons bouffe, si je puis dire, puisque j'espère que tu es dans ton assiette et que vous avez l'estomac bien accroché, puisqu'on va remonter un petit peu l'échelle du temps de la gastronomie. Et oui, nos modes d'alimentation sont depuis des milliers d'années en perpétuelle évolution. Preuve en est avec nos ancêtres qui, du temps de la préhistoire, ne mangeaient que ce qu'ils trouvaient lorsqu'ils se déplaçaient. Et oui, à l'époque, à l'ère du paléolithique, entre 3 millions d'années et 8 000 ans environ avant notre ère, l'homme se déplace énormément à l'époque et n'est qu'un chasseur finalement nomade. Il faut attendre donc le néolithique entre 8 000 et 3 000 ans avant Jésus-Christ, puis une sédentarisation progressive de notre espèce pour qu'on on assiste à une révolution de notre alimentation avec notamment l'agriculture, la culture des céréales, où de là ont découlé l'apparition du pain, de la bière ou encore du vin du temps des Grecs et des Romains, des féculents avec les pois chiches notamment, et de la viande avec les porcs et les bovins. Alors notre alimentation a ensuite connu un nouveau tournant grâce aux explorations outre-atlantiques et orientales menées au XVe siècle, le siècle des grandes découvertes symbolisées notamment par Christophe Colomb avec la route des Indes ou encore celle des épices avec Vasco de Gama ou encore Afonso de Paiva, notamment pour les plus férus d'histoire. Alors ces explorations et conquêtes ont permis d'intégrer à nos assiettes de nouveaux condiments, les épices et d'autres sortes de féculents comme la patate ou encore des fruits tels que la tomate originaire du Mexique, si vous ne le saviez pas encore. Et pour en revenir à aujourd'hui, bien qu'elle soit remise en cause pour diverses raisons, c'est une agriculture modernisée, industrialisée et de masse à laquelle nous assistons. Alors quel est réellement l'état de notre alimentation aujourd'hui? Comment l'analyser? Mais surtout, comment se projeter à l'avenir? Quelles seront les nouvelles habitudes alimentaires? Et à quoi ressemblera la gastronomie de demain? On en parle avec notre invitée du jour, Maya Fillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors, diététicienne nutritionniste, deux professions donc. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est réellement ce métier? En quoi est-ce que ça consiste?
Diététicienne ou diététicien nutritionniste, c'est un professionnel de santé spécialisé en nutrition. Donc, nous sommes les spécialistes de l'aliment lié à la santé. Donc, les gens nous connaissent en général pour la perte de poids, mais nous travaillons également dans les hôpitaux, de concert avec les médecins, les aides-soignantes et les infirmières pour adapter l'alimentation au mieux pour le patient et en fonction de ses différentes pathologies.
Alors donc c'est deux métiers en un, si je comprends bien.
Voilà.
L'équilibre alimentaire, c'est un paramètre important à prendre en compte pour imaginer la gastronomie de demain. Comment est-ce que vous la définissez?
Bien sûr. Alors l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée. On fait souvent l'amalgame. Il ne faut pas manger de tout non plus en trop grande quantité. On ne va pas vous dire de vous gaver de sucreries, par exemple, pour l'exemple. Donc c'est manger de tout en quantité adaptée. On va favoriser les fruits, les légumes, les viandes maigres et manger de temps en temps pour se faire plaisir des choses un peu plus grasses et un peu plus sucrées, par exemple.
Donc c'est vraiment trouver... sans jeu de mots, bien évidemment, mais le juste équilibre entre ce qui est gras et à la fois ce qui comporte un apport alimentaire sain, si je puis dire. Alors, avant de continuer cet entretien très croustillant, je crois qu'il y a Emma qui veut nous dire quelque chose.
Exactement, Obi. Vous pouvez vous figurer comme ce thème de la gastronomie et de manière plus générale notre alimentation a nourri nos imaginaires d'humains affamés. Et un genre en particulier à développer cet imaginaire, c'est bien sûr la science-fiction. La science-fiction explore les possibles futurs de notre planète et de notre, ou plutôt de nos, civilisations. Et oui, nous ne sommes pas à l'abri de rencontrer un jour des visiteurs venus d'ailleurs. Mais revenons à un avenir plus probable, les auteurs de science-fiction se basent sur la science pour prédire les changements de notre climat. Et dans beaucoup d'œuvres, on voit se dresser des scénarios sous fond d'air glaciaire, ou caniculaire ou encore d'accident nucléaire. Bref, des mondes où règne la famine, car toute forme d'agriculture, d'élevage ou bien de chasse et pêche deviennent impossibles. Le problème de la surpopulation de notre planète Terre est également très largement abordé, et à juste titre, car on estime que d'ici 2050, la Terre devrait compter plus de 9 milliards d'habitants. Vient donc la question de comment nourrir les habitants d'une planète qui se reproduisent encore plus vite que des lapins. Les auteurs de science-fiction développent différents axes de réflexion. Transformation génétique, agriculture totalement refondée, aliments peu ragoûtants comme des insectes, des algues, du plancton, nourriture industrielle, produits miracles, et ça, entre autres. Certains auteurs de science-fiction se sont même spécialisés sur les questions alimentaires, comme Peter F. Hamilton, qui décrit 50 façons de faire des œufs au bacon selon la planète sur laquelle on se trouve. D'autres ont inventé aussi des recettes extraterrestres. Il y a d'ailleurs des ateliers cuisine lors des événements de science-fiction pour tester ces différentes recettes du futur. Cependant, et j'en suis désolée, chers auditeurs, cette chronique n'aura pas pour but de fournir la solution magique à cette énigme de l'alimentation du futur. Tout simplement parce que la science-fiction n'a pas pour fonction de proposer des solutions, mais de soulever des questions. Et aussi souvent de critiquer le capitalisme, on va pas se mentir. La science-fiction est un genre narratif qui explore des idées, des possibilités, sans limite ni tabou, car ce genre s'extrait de la réalité. Je vous cite d'ailleurs une phrase de Jean-Claude Dunas, auteur de science-fiction qui illustre tout à fait la différence à effectuer entre science agroalimentaire et science-fiction. Nous, auteurs de science-fiction, sommes amenés à rencontrer des scientifiques pour leur demander leur avis sur une de nos idées. Et 9 fois sur 10, on tombe sur quelqu'un absolument ravi de nous répondre « Tu te trompes complètement, c'est beaucoup plus compliqué que ça ». Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos OGM, avec un petit tour d'horizon d'exemples alimentaires que l'on retrouve dans la science-fiction. Et je commencerai avec cette phrase « Nous sommes ce que nous mangeons ». Qui colle parfaitement à ce film culte, qui est Le Soleil Vert, film américain d'anticipation réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973 et inspiré du roman Make Room, Make Room d'Harry Harrison. Dans un monde surpeuplé, la seule source de nourriture est proposée par la société Soylent Corporation. C'est une sorte de biscuit vert sans goût ni texture, produit de manière industrielle. La nourriture est ainsi réduite à son plus basique usage, le fuel nécessaire pour que le corps humain continue de fonctionner. Les hommes ne se posent pas vraiment la question de la provenance de cette nourriture. Hier, on supposait que la nourriture venait des productions agricoles, aujourd'hui, elle provient du plancton. Personne ne se pose plus de questions, car tant que l'apport calorique est respecté, tout le reste devient secondaire. Mais horreur, on découvre qu'après avoir systématiquement détruit toute ressource capable de nourrir la population, la Soylent Corporation se rabat sur la dernière ressource disponible, les calories et protéines disponibles dans les cadavres humains. La philosophie de ce film est assez claire. Si la nourriture n'a plus de forme qui lui est propre, si elle n'a plus de goût, si elle n'a plus de provenance identifiable, toute sorte de calories devient bonne à prendre. Oui, oui, on tente bien de justifier ici le cannibalisme. Alors, excusez-moi. Je reviens dans une seconde. Donc, on tente bien de justifier ici le cannibalisme. Nous sommes ce que nous mangeons. Alors, cette idée de produit miracle se retrouve dans beaucoup d'œuvres. Les capsules alimentaires offrant des saveurs variées dans les romans du maître Asimov. L'arôme aspergé sur n'importe quel aliment et lui donnant un goût merveilleux dans les nouvelles de Brian Stapleford. Ou encore Larry Niven, qui nourrissait exclusivement ses personnages de cubes alimentaires hyperprotéinés. Le thème de la nourriture technologique est aussi un classique du genre. On pense aussi à la machine à hydrater les pizzas dans Retour vers le futur, ou à la société technologique sans nourriture, mais où l'on sert des steaks virtuels et des desserts orgasmiques ou sensitifs dans le film Matrix. On se souvient aussi de la scène dans Le cinquième élément de Luc Besson, où Lilou dépose un cube aromatisé au poulet dans un four au micro-ondes, très spécial. Quand elle ouvre le four, après 2 secondes de cuisson, elle sort un poulet rôti synthétique. Chez ses auteurs, l'organique cède la place au cybernétique.
Dans un autre univers, cette fois-ci post-apocalyptique, on pense au Mad Max d'Ezra Miller, où à la suite d'un holocauste nucléaire, le monde est devenu une terre désertique et la civilisation s'est effondrée. Les ressources convoitées sont l'eau et l'essence. Et on se souvient de voir Max manger une boîte de nourriture pour chien. Pas super sur le plan nutritionnel. D'ailleurs, citons un autre exemple très nutritif. Dans le Demolition Man de Marco Brambilla, la municipalité de Los Angeles a banni l'alcool, le sexe, la nicotine et la viande sous peine de prison. Les résistants sont contraints de se nourrir de burgers à la viande de rat. Miam. Bon, il faut savoir s'arrêter, mais je pourrais aussi vous parler de l'épice qui rallonge la vie dans Dune ou encore des lambasses, le pain des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. J'imagine que vous serez désormais attentifs, comme moi, à ce que les héros mangent dans nos futures lectures ou visionnages d'œuvres de science-fiction. Et je vous quitte avec une phrase qui s'est doucement posée sur ma rétine et a commandé à mon cerveau d'esquisser un grand sourire durant mes recherches sur le sujet. Et je vais vous la partager. Marie-Laure Ustache, communicante chez Agridé, nous dit ceci. D'une certaine manière, les écrivains de science-fiction sont des jardiniers du futur qui s'évertuent à faire pousser dans l'imaginaire des mondes crédibles et envisageables pour en déterminer les dangers ou les attraits.
Alors, il est vrai que dans le monde de la science-fiction, on regorge d'exemples d'alimentation futuriste. On peut notamment parler des pilules qu'on a entendues qui font instinctivement penser aux compléments alimentaires d'aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, vous, en tant que spécialiste, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vous projeter sur nos modes d'alimentation futurs? Comment est-ce que vous imaginez, la gastronomie de demain, Maria Fillon?
Alors, j'aimerais revenir d'abord sur les compléments alimentaires et donc les petites pilules magiques, on va dire. C'est dans le nom, hein, c'est un complément alimentaire, c'est pour compléter l'alimentation. Donc j'ai des doutes sur le fait qu'une simple pilule puisse nous nourrir, hein. On manquerait quand même de fibres qui régulent notre transit, la satiété, on manquerait je pense de certaines choses. Ensuite, on a encore des progrès à faire, hein, bien sûr, mais il y a déjà des choses qui existent, qui se développent de plus en plus pour l'alimentation future, avec par exemple l'utilisation d'insectes dans l'alimentation. Pas très ragoûtant comme ça, vous me direz, mais aujourd'hui, différentes formes existent pour les consommer, pour remplacer les protéines animales, des vaches, du porc, etc.
Alors oui, justement, parce que c'était ma prochaine question, vous me devancez, on parle souvent des insectes ou encore des larves, hein, notamment comme des alternatives possibles, parce qu'il y a une très forte teneur en protéines. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre mot là-dessus, finalement?
Alors oui, c'est une très forte teneur en protéines pour un tout petit grammage, hein, si vous voulez, forcément. Hein. C'est bien plus concentré en protéines pour le même grammage qu'un beefsteak. Et c'est surtout que d'un point de vue culture, c'est plus facile de cultiver des criquets, ça prend moins de place qu'un troupeau de vaches. Vous serez d'accord avec moi sur ce sujet. Pour le côté ragoûtant, je sais qu'aujourd'hui, on peut retrouver dans certains supermarchés ou même sur Internet des grillons grillés, des larves grillées. Pourquoi pas essayer, hein, si vous souhaitez. Mais certains restaurants l'utilisent aussi sous forme de poudre, comme de la farine, dans des préparations sucrées comme salées, pour que le client n'ait pas l'aspect des petites pattes, des ailes et tout ça, de l'insecte. Et en général, ça passe très bien comme ça. Moi, je suis assez pour.
Alors, ça on en retrouve en Europe ou c'est déjà démocratisé dans le monde?
Dans le monde. Et en Europe aussi, dans des restaurants. À Paris, il y en a certains.
D'accord. Alors, bon, forcément, c'est pas savoureux hein, quand on entend tout ça. Et en parlant de plaisir donc gustatif, est-ce qu'on ne prendrait pas le risque finalement de perdre cette sensation de plaisir et donc, ben, par ricochet, notre identité gastronomique finalement?
Alors, je suis pas sûre, étant donné qu'on peut, encore une fois, c'est une alternative aux protéines, mais qui serait donc conjuguée avec d'autres aliments. Donc, par exemple, si je vous fais des crêpes au criquet avec de la pâte à tartiner dessus, vous...
Oui, on n'est pas bien, oui.
c'est agrémenté, on ne vous sert pas forcément le criquet comme ça, vivant, dans votre assiette. En général, ils sont grillés, assaisonnés avec des épices, avec une sauce. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le plaisir peut être là. Hein. C'est dans beaucoup de cultures, on mange des insectes depuis des années. Hein. Ils savent les manger et ça reste quelque chose de plaisant pour eux.
Donc pour vous, c'est finalement l'assaisonnement qui prime. Un criquet ou je ne sais quel autre insecte bien assaisonné, finalement, eh bien, on garde cette sensation de plaisir, quoi, finalement.
Chez vous, c'est pareil. Quand vous cuisinez des pâtes, généralement, on met du beurre avec, on met du sel, on met du gruyère. On rajoute des choses. C'est ce petit rajout qui donnera le plaisir.
Bien. Donc, il faudra, en tout cas, bien assaisonner. En tout cas, à l'avenir, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est la dernière question. Vous savez, c'est une tradition dans Microlab. Personne n'échappe à la suivante. Est-ce que vous auriez une œuvre ou des œuvres, quelles qu'elles soient, livres, vidéos ou émissions de radio, de télévision, de vulgarisation scientifique, eh bien, recommander à nos auditeurs qui vous a particulièrement marqué aujourd'hui ou avant ?
Alors, quelle quelle je serais si je ne parlais pas du plan national nutrition santé. Je souhaiterais vous parler du site mangerbouger.fr qui est donc la vulgarisation scientifique du plan santé sur la nutrition. Et donc, tout le monde peut le lire. Il y a des articles scientifiques résumés à l'intérieur et des petites idées pour l'alimentation du quotidien.
Merci beaucoup Maya Fillon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste. J'espère au moins qu'on a pu vous mettre l'eau à la bouche, si je puis dire. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Avant de se quitter, Emma, tu as une petite surprise pour nous. Nous t'écoutons.
Et oui l'équipe, je vous ai effectivement préparé un petit quiz pour finir sur une touche funky. Je vous explique. Alors, je vous donne une situation et vous me répondez réalité ou science-fiction. Réalité si vous pensez que c'est une technologie réellement en développement ou science-fiction quand cette situation est tirée d'une œuvre de science-fiction. Les auditeurs, vous pouvez jouer également avec nous. Alors, vous êtes prêts ?
C'est parti. Bon.
Alors, mon premier. Donc, un verre de Soylent à l'apparence blanchâtre d'un médicament et un goût de carton bouilli qui représente l'avenir de l'alimentation. En effet, une dose de cette poudre mélangée à un peu d'eau et voilà tous les nutriments d'un repas en un seul coup. Alors Julie, réalité ou science-fiction ?
J'espère que c'est faux, mais allez, je vais tenter réalité.
Eh ben, tu as raison. Son inventeur est Rob Reinhart, un Californien de 27 ans. Et en 2013, ce programmateur informatique à la base s'est nourri uniquement de ce Soylent. Alors, Soylent qui vient du film Le Soleil Vert dont je vous avais parlé avant. Donc, il s'est nourri de ça pendant un mois et le résultat, c'est qu'il était en pleine forme. Donc, voilà, on verra comment se poursuit cette adaptation économique, mais je suis pas sûre que tout le monde veuille vraiment tenter l'expérience. Donc ensuite, la deuxième, un repas en réalité virtuelle avec des cubes de gelée nutritive à base d'algues imprimées en imprimante 3D. Alicia, est-ce que tu as une idée ?
Alors là, pour le coup, je tenterais science-fiction.
Eh ben non, c'est encore projet réel. C'est le projet Nourished, basé à Los Angeles, qui propose donc de servir des cubes de gelée nutritive à base d'algues, avec un casque de réalité virtuelle, un générateur d'arômes et une fourchette connectée qui se charge de donner l'illusion de bons morceaux de viande. Donc, d'après le sud-coréen Jin Sohan, à l'origine de l'idée, cela suffit pour avoir l'expérience plaisante d'un repas avec un impact écologique minimal. Mais ni la commercialisation, ni l'acceptation sociale ne semblent être pour demain. Alors, le troisième, un steak constitué de filaments de cellules musculaires de bœuf reproduit et grandi dans des éprouvettes. Obi, celle-là est pour toi.
Tu m'embouches un petit coin là. Je ne sais vraiment pas la réponse. Moi, je dirais que c'est réalité quand même.
Et oui, j'ai encore mis un truc réel, mais parce que tes projets sont fous. Donc en 2013, le Néerlandais Mark Post, chercheur à l'université de Maastricht, a proposé à la dégustation son premier steak constitué de filaments de cellules musculaires de bœuf, donc reproduites et grandies dans des éprouvettes. Donc l'avantage de cette viande in vitro, c'est plus besoin d'élevage, qui consomme, vous le savez, énormément d'eau et qui contribue à 18% des rejets de gaz à effet de serre. Mais bon, le gros inconvénient, c'est que ce prototype de steak, coûte 300 000 euros la pièce, pour un goût apparemment assez décevant. Alors, une dernière petite question pour la fin, je pensais que finir là-dessus serait sympa. Est-ce que vous avez une idée de ce que mangeaient les astronautes lors de la mission Apollo ? Qui veut répondre ?
Je n'en ai strictement aucune idée. Alicia, vas-y.
La nourriture en tube, non ?
Déshydraté, peut-être, non ?
Alors, on voit qu'il y a un panel de réponses. Eh bien non, et ça m'en embouche un coin aussi. Les astronautes américains du programme Apollo ne mangeaient pas du tout afin de ne pas avoir le problème d'aller aux toilettes. Et ouais, c'est beau, hein ?
L'épisode de Microlab touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Obi, Emma et merci également à Maya Fillon de nous avoir rejoints aujourd'hui. Le podcast sera disponible très prochainement sur campusgrenoble.org, rubrique podcast. Nous vous invitons également à nous suivre sur le Twitter de l'émission, @microlaboff, pour ne rien louper de l'actualité de Microlab. Si vous nous écoutez en direct ou en rediffusion, je vous donne rendez-vous le 24 novembre pour le prochain épisode de Microlab. Même heure, même radio, même équipe. À bientôt !